Bonsoir, comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver ce soir. Ce sont les joies de la rentrée et ces joies compensent la tristesse de la fin des vacances. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux enfants qui n'ont pas envie de rentrer à l'école. Mais tu vas retrouver tes copains et tes copines. Pourquoi c'est déplaisant la rentrée, malgré cette joie des retrouvailles justement? Parce qu'il faut se lever tôt? Bon, je pense pas. Se lever tôt pour aller aux champignons, c'est sympa. Parce qu'il faut travailler? Bon, je pense pas non plus. Les enfants n'arrêtent pas de travailler sur la plage, de construire des châteaux, des barrages, de creuser des grands trous. Plutôt que le type d'activité, ne serait-ce pas l'obligation de résultat qui est stressante? Faire la sieste, c'est merveilleux, mais si à chaque sieste, quelqu'un mettait une note pour évaluer la qualité de cette sieste, ça finirait par être pénible. Aller se baigner est une joie, mais si à chaque bain, on devait réussir à entrer dans l'eau dans un temps record, nager vite, éclabousser haut, ce serait moins drôle. Avec la rentrée, on fait des trucs sympas, mais il faut les réussir obligatoirement. Je vous l'accorde, réussir est agréable, c'est le « il faut » qui ne l'est pas. Adieu l'insouciance, il faut gagner.
Bonjour, je m'appelle Simon et je voudrais savoir pourquoi dans les jeux et dans le sport, il y a des gagnants et des perdants. Voilà.
Bonsoir Simon. Quelle question, Georges Vigarello. Pourquoi dans le sport, il y a des gagnants et des perdants? Vous n'avez que 4 minutes.
Eh bien oui Simon, dans le sport, il y a des gagnants et des perdants. Alors parfois, il y a plusieurs gagnants. Nous ne nous y trompons pas, il y a des gens qui arrivent ex aequo, ce qui est assez remarquable. Mais pourquoi y a-t-il des gagnants et des perdants? Alors c'est une question importante, parce que dans certaines cultures, les ethnologues l'ont très bien montré, on ne supporte pas qu'il y ait des gagnants. Donc il faut finalement trouver un moyen pour que le résultat soit quasiment du type de l'ex aequo, parce qu'on a le sentiment que si on crée finalement un vainqueur, on trouble en quelque sorte le monde, on déséquilibre le monde. Et il faut maintenir un équilibre. Et je trouve que de ce point de vue, cette tentative est extrêmement intéressante. Mais dans nos cultures, c'est un peu différent. Parce que dans nos cultures, je crois, à tort ou à raison, on a besoin de comparaison, on a besoin de se comparer. Dès que la société s'organise, il faut effectivement qu'on arrive à désigner ceux qui sont plus compétents que d'autres, ceux qui sont plus méritants que d'autres. Et c'est vrai que le sport a tendance à symboliser, là encore, à tort ou à raison, mais il a tendance à symboliser le fait que nous attendons de désigner des compétences et des mérites. Et c'est en cela que le sport, effectivement, crée une situation où on a des gagnants et des perdants. Avec cette idée, quand même, qu'il ne faut pas négliger, c'est que le perdant d'aujourd'hui peut être le vainqueur de demain. Ah. Donc il y a un travail à faire. Le sport crée quelque chose qui est de l'ordre de l'attente. Et avec de l'entraînement, avec de la formation, avec de la tentative de créer de la compétence. Donc les choses ne sont pas établies. Ça, c'est très intéressant dans le phénomène sportif. Le possible demeure. Et même ceux qui ne réussissent pas dans un sport peuvent finalement peut-être réussir dans un autre. Donc, tout n'est pas figé.
Et le miracle existe, c'est-à-dire qu'on a vu des matchs se transformer à la dernière minute. On a vu des athlètes plutôt petits être des grands champions dans des sports où il n'y a que des grands, enfin, et ainsi de suite.
Oui, c'est en ça que le sport est passionnant, parce qu'il y a le renversement, finalement. Il y a l'inattendu, il y a la surprise. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait que le sport crée de l'adhésion. Dans le spectacle, il crée de la fascination. Et du coup, il y a un perdant et un gagnant, ce qui nous pourrait paraître de l'ordre de la désespérance au premier abord. Mais en fait, ça peut au contraire, à l'inverse, être de l'ordre de l'espoir.
Georges Vigarello est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a écrit, entre autres, « Les liaisons dangereuses de la médecine et du sport ». Alors, ce soir, Margot a demandé à Yves Coppens si Lucie marchait sur ses deux jambes. Thierry Laudet dira à Elsa pourquoi il y a ici-bas des mâles et des femelles. Et Michaël Larard expliquera à Julie comment on tombe amoureux. Vous savez que pour être pilote, il faut avoir une très bonne vue. Et quand on est pilote et avion en même temps?
Bonsoir, je m'appelle Asia, j'ai 14 ans et j'aimerais savoir, est-ce que les abeilles voient en couleur? Parce que ce serait quand même plus pratique pour voir les fleurs.
Bonsoir Asia. Nous avons proposé ta question à Aurore Averguès-Weber, qui s'occupe des abeilles. Vous êtes chercheur au CNRS à l'Université de Toulouse.
Tout à fait, bonsoir Asia. Effectivement, les abeilles voient en couleur. Et pour la petite histoire, il y a donc encore une centaine d'années, l'espèce humaine, les humains, étaient persuadés que les couleurs n'étaient là que pour faire plaisir à l'homme, puisque nous avons le goût de la beauté. Et que donc, bien sûr, les animaux, et les abeilles en particulier, ne voyaient pas les couleurs. Et donc la première personne qui a démontré que les abeilles voyaient les couleurs, il s'appelle Carl von Frisch, c'était un Autrichien, il s'est fait rejeter de toute la communauté scientifique, car personne ne le croyait. Et il a réussi à démontrer de façon très belle que les abeilles voyaient les couleurs.
Alors, comment a-t-il fait?
Alors tout simplement, les abeilles récoltent du nectar dans les fleurs. Et en fait, lorsqu'elles trouvent du nectar dans une fleur, elles vont apprendre les caractéristiques de la fleur pour s'en souvenir et aller visiter les fleurs similaires qui ont aussi du nectar. Et donc lui, tout simplement, ce qu'il a fait, il a découpé des petits carrés de couleurs et il a mis de l'eau sucrée dessus. Donc les abeilles le trouvent. Elles recrutent parce que les abeilles peuvent appeler leurs copines pour venir chercher tout le nectar. Donc toutes les abeilles venaient sur ce carré bleu, par exemple. Et ensuite, une fois que les abeilles avaient l'habitude de venir sur le carré bleu, il a proposé plusieurs carrés. Ce carré bleu, plus des carrés de plein de gris différents. Tout simplement parce que lorsqu'on ne voit pas les couleurs, on voit gris. Et donc si l'abeille ne voyait pas les couleurs, elle n'aurait pas pu faire la différence entre ce carré bleu et un carré gris. Et donc, on aurait eu des abeilles qui allaient butiner dans tous les carrés. Or, les abeilles ont retrouvé le carré bleu. Et il a fait comme ça avec plein de couleurs. Et il a déjà pu montrer, donc ça c'était avant la Première Guerre mondiale, donc dans les années 1900, il a réussi à montrer que les abeilles voyaient effectivement bien le bleu, le vert, le jaune, etc., jusque dans le blanc, mais ne voyaient pas le rouge. Et après, on a pu enregistrer qu'est-ce qui se passe dans l'œil de l'abeille. Donc il y a des petites protéines qui s'appellent des opsines, qui sont sensibles à la lumière, comme dans tous les yeux de tous les animaux. Et donc, on a pu voir qu'il y en avait trois types. Un qui est sensible, le vert, un sensible au bleu et un sensible aux ultraviolets. Alors ça, c'est très différent de nous. Donc vous voyez que là, il n'y a pas d'opsines qui sont sensibles au rouge, contrairement à nous. Donc effectivement, les abeilles ne voient pas le rouge. Par contre, elles vont voir l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, donc, c'est une couleur que nous ne voyons pas. Donc on la verrait grise, on ne la voit pas. Et il est intéressant de voir que beaucoup de fleurs, justement, ont des dessins en ultraviolet.
Ah !
Et du coup, c'est très marrant à voir lorsqu'on utilise un appareil photo spécial qui nous permet de transformer l'ultraviolet pour que nous, on puisse le voir. Et là, on voit qu'il y a comme des pistes d'atterrissage dans les fleurs. C'est-à-dire que l'endroit où il y a le nectar, qui est en général au centre de la fleur, va être très riche en ultraviolet. Donc, il va briller pour l'abeille. Où il y a parfois des petites pistes d'atterrissage, comme des petites flèches qui indiquent l'endroit où trouver le nectar. Donc ça, ça prouve vraiment que les fleurs ont développé leur couleur pour les abeilles ou les autres insectes pollinateurs, et pas pour nous, puisqu'elles ont même fait des dessins qu'on n'est pas capable de voir.
Piste d'atterrissage spéciale abeille sur les fleurs. Pas mal.
Chanteurs, leur mélopée. Et nous vivions heureux.
C'était Polo et Pan Canopée.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Garance, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir comment ça meurt et ça naît l'amour. Merci.
Bonjour, je m'appelle Julie et je voudrais savoir comment on tombe amoureux. Merci de me répondre. À bientôt.
Merci Garance et Julie. Deux questions sur l'amour que nous proposons à un médecin psychiatre spécialisé pour les enfants et les adolescents, le docteur Michael Larard. Alors, comment on tombe amoureux? Comment naît l'amour?
Bon, vous savez, j'ai un petit peu honte parce que quand on pose ces questions à un psychanalyste, il répond pas avec du romantisme. Et là, c'est des petites toutes mignonnes qui posent cette question et qui se posent la question de ce qui se joue entre leurs parents et de ce qui se jouera pour elles plus tard. Alors, en espérant qu'elles n'écoutent peut-être pas la réponse, je vais vous livrer quelques réflexions psychanalytiques. Pour la psychanalyse, l'amour, évidemment, c'est une énigme comme pour tout le monde, mais quelques réflexions, c'est que c'est une maladie mentale, mais sympathique. C'est-à-dire que on peut s'étonner qu'on aime quelqu'un en général qu'on ne connaît pas. On tombe amoureux et c'est pas souvent quelqu'un qu'on connaît très bien. Comment se fait-il que ce sentiment si puissant et si profond soit généré par quelqu'un d'inconnu? Étonnant,
c'est vrai,
non?
Ça.
Eh oui. Regardez par exemple dans les contes de fées, le prince, il a toujours le même visage, un visage très lisse. On serait incapable de le différencier.
Ouais.
Alors les psychanalystes, ils proposent une réponse très antipathique, mais je vais quand même vous la faire. L'idée que dans cette part de l'amour, il y a une projection. Une projection narcissique, c'est-à-dire que sur ce prince qui finalement se prête à toutes les interprétations, il peut être n'importe qui, je vais projeter celui que je veux. Et celui que je veux, c'est mon complément idéal ou c'est mon moi idéal. Donc, j'aime quelqu'un en vérité que je ne connais pas parce qu'il me permet de penser qu'il est celui que je veux qu'il soit. Alors, j'aime plutôt en fait une part de moi-même projetée que l'autre. Et d'ailleurs, on a souvent peur au premier rendez-vous que la personne en face de nous ait une voix bizarre, nous dise des trucs horribles, c'est-à-dire tout d'un coup qu'elle casse notre projection et qu'elle casse notre délire auto-amoureux.
Donc, docteur Michael Larard, on tombe amoureux du prince charmant ou de la princesse charmante parce qu'on met ce dont on a envie sur ce visage. Mais après, comment ça meurt, demande Garance?
Malheureusement, je dirais que ça meurt quand on se connaît trop.
Ah, ça casse un peu. Hein. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions au 01 45 24 7000, des enfants jusqu'à 100 ans. Et Marjorie de Vaucoux cherche des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 9 ans et demi. Pourquoi y a-t-il des mâles et des femelles? Est-ce qu'il y avait des mâles et des femelles chez les premiers animaux apparus sur Terre? Merci de me répondre et au revoir.
Bonjour Elsa, alors nous avons proposé ton importante question à un professeur, chercheur, Thierry Laudet, professeur en écologie évolutive dans des universités où tu iras peut-être, à Rennes ou à Angers. C'est une question énorme qu'elle vous demande, vous n'avez que 3-4 minutes pour répondre et pas une année entière avec vos
mais
élèves.
Mais c'est une question très grave en effet, parce que le sexe constitue l'une des solutions les plus improbables à la réussite de la reproduction. Quand on est de deux sexes différents, on ne peut pas transmettre tous ses gènes, mais que la moitié, c'est compliqué, il faut inviter l'autre au restaurant. Il faut faire plein de choses très compliquées. Et en plus, les mâles se battent souvent entre eux. Bref, pourquoi avoir inventé la sexualité? Eh bien, c'est une question à laquelle les biologistes ont beaucoup, beaucoup de mal à répondre. Il faut bien comprendre que c'est une vieille histoire. Il y avait au départ des bactéries qui se divisaient et qui n'avaient pas de sexe. Et de l'autre côté, il y avait des organismes autres, des organismes vivants, les plantes, les animaux, les champignons, qui eux ont petit à petit inventé la sexualité. Inventer la sexualité, ça veut dire qu'ils étaient tellement les uns sur les autres qu'ils ont été obligés de s'échanger de l'ADN et s'échanger des chromosomes, s'échanger cette petite particule élémentaire de la vie. Sauf qu'en s'échangeant de l'ADN, eh bien l'ADN, il a trouvé un moyen simple de pouvoir rester, c'est qu'il s'est recombiné. Et puis comme il y en avait de trop, on a inventé ce qu'on appelle nous les biologistes, la méiose réductionnelle, c'est-à-dire qu'on a divisé cet ADN qui était en trop, on l'a réparti chez les autres, et c'est ça la sexualité, avec un peu de syngamie derrière, c'est-à-dire avec un petit peu de fusion. Alors au départ, les êtres vivants étaient sûrement hermaphrodite, parce que c'était plus simple d'avoir les deux sexes en même temps puis de tout faire ensemble. Mais quand on est hermaphrodite, il faut qu'un individu copule quand même avec un autre, parce qu'il faut s'échanger les spermatozoïdes. C'est ce que font actuellement les vers de terre, par exemple, qui vont s'associer ensemble, mais ce sont deux mâles qui se donnent des spermatozoïdes l'un à l'autre. Ils gardent ça dans leur spermatèque, et ensuite ils vont féconder leurs propres ovules avec ce sperme. C'est pas très pratique. Autant diviser les deux, et c'est ce qui s'est passé au cours de l'évolution. D'accord. Il y a eu une atrophie d'un des deux sexes, et certains individus vont devenir des femelles et d'autres des mâles. Mais attention, c'est pas que génétique, c'est physiologique, c'est historique, ça dépend de tout un ensemble de paramètres. Chez les crocodiles, on devient mâle ou on devient femelle selon la température des œufs, etc. Et il y a beaucoup d'espèces chez qui le sexe peut varier, on peut même changer de sexe en cours de la vie, chez certains poissons, chez certaines espèces. Donc on est petit à petit devenu de sexes différents, parce que ça a facilité la reproduction, mais la sexualité est encore beaucoup plus complexe, et en 4 minutes, nous ne pourrons pas en dire beaucoup plus.
Changer de sexe au cours de la vie, comme ça, simplement, c'est un peu comme l'orthographe, en fait, autrefois il y avait beaucoup plus de liberté. Thierry Laudet, je vous l'ai dit, est professeur et chercheur en écologie évolutive aux universités de Rennes et d'Angers. Mrs. Dynamite. Moi, j'aime bien son titi, mais je ne fais pas très bien, malheureusement. Il faudrait que je m'entraîne. Vous l'avez entendu, comme moi, nous avons appris cette semaine que l'Australopithèque Lucie, était morte lors d'une chute depuis un arbre. Et cette conclusion est tirée d'une étude qui a été faite à l'université d'Austin au Texas grâce à des machines et des rayons extrêmement sophistiqués. Et ils l'ont fait sur le squelette de Lucie quand elle était en tournée aux États-Unis. Parce que figurez-vous que Lucie fait des tournées comme une rockstar. Quand Yves Coppens est venu au Petit Bateau au printemps, eh bien, ces informations, nous ne les avions pas encore.
Bonjour, je m'appelle Margot et je me demande si Lucie marchait sur ses deux jambes. Merci.
Je voudrais savoir quelle taille faisait Lucie.
Alors, Yves Coppens.
Oui, d'abord Margot, les descendants des ancêtres communs, c'est-à-dire des papas, mamans qui étaient à la fois ancêtres des grands sages et puis des humains, il y a une dizaine de millions d'années, ont fabriqué des chimpanzés, pré-chimpanzés et chimpanzés d'un côté, et puis des pré-humains et des humains de l'autre. Et il se trouve que Lucie est considérée comme une pré-humaine, c'est-à-dire que pour s'adapter à son milieu qui devenait plus sec, elle s'est mise debout, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, comme elle est debout, elle marche, en effet, sur ses deux pattes postérieures, sur ses deux jambes, plus ou moins bien. Hein. Pas tout à fait comme nous, pas de manière aussi fluide que nous.
Comme un ours ?
Parce que, oui, de manière un petit peu chaloupée. Parce que Lucie continue à grimper. Alors, évidemment, nous, on ne grimpe pas, ou pas couramment, en tout cas. Et donc, pour bien grimper, il faut aussi pouvoir marcher. Et on ne marche pas très très bien quand on continue à grimper un petit peu.
Les pieds qui permettent de grimper et d'agripper ne sont certainement pas les mêmes que les pieds qui permettent la marche à plat.
Oui, c'est d'ailleurs très extraordinaire de voir le squelette de Lucie, parce qu'il est composé évidemment d'un certain nombre d'os et d'articulations, et ces ossements varient en fonction du comportement, c'est-à-dire que la tête est posée sur la colonne vertébrale comme quelqu'un qui est debout, la colonne vertébrale a des courbures comme quelqu'un qui est debout, le bassin il est assez raccourci, assez large comme quelqu'un qui est debout, et qui doit porter l'ensemble des organes, l'ensemble du corps. Et à côté de ça, le fémur qui a l'allure de quelqu'un de debout a un genou qui commence à être celui de quelqu'un qui grimpe, et la cheville est celle de quelqu'un qui grimpe, et le pied est celui de quelqu'un qui grimpe et qui saisit avec son pouce opposable, comme celui des mains, et le membre supérieur, l'avant-bras et le bras, sont aussi très adaptés au grimper. Donc Lucie est une sorte d'amalgame, de mélange entre quelqu'un d'adapté à la marche sur les deux pattes postérieures et quelqu'un adapté au grimper, très, très habile, qu'elle devait pratiquer sûrement dans la journée pour échapper aux prédateurs, aux carnivores, et puis le soir pour dormir.
C'est pour ça qu'elle est précieuse, en fait, pour vous.
Ben, c'est la première fois, on a trouvé ça à plusieurs reprises depuis, mais c'est nous, c'est ma petite école, enfin les jeunes gens qui étaient autour de moi, et moi-même qui avons découvert ça dans les années, début des années 80. C'était la première fois. Et l'autre question était à propos de la taille. Alors, Lucie est une fille, Lucie est une petite fille même, enfin petite fille, je veux dire qu'elle est adulte, mais c'est une petite femme, une petite pré-femme, et elle ne devait pas mesurer plus d'un mètre ou un mètre dix.
Merci Yves Coppens, vous trouverez les titres, ils sont tellement nombreux, les titres des livres d'Yves Coppens sur le site des Petits Bateaux. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures, à 22h et des poussières exactement, ce soir, pour une nouvelle émission sur la spiritualité et le bien-être, qui sera ce soir, comme ça se trouve, consacrée à la marche. Vous pouvez retrouver Les Petits Bateaux sur le site, bien entendu, ou bien le livre Les Petits Bateaux en format poche. Sinon, nous reviendrons dimanche prochain à 19h30. Nous, c'est Jean-Baptiste Audibert et Guillaume Roux pour Les Garçons. C'est Flora Bernard, Marjorie Devoucou et Noël Bréham pour Les Filles. Je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu.